RFI. La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire.
Je pense que la parole, les paroles sont une des traces. Quand je suis venue donc en 2000 pour faire mon premier film sur les gachachas, c'était ça qui m'intéressait. Comment utiliser la parole pour reconstruire, pour retisser du tissu social après le cataclysme du génocide.
C'était une façon de dire, ok, on parle souvent dans une certaine légèreté, même quand on parle des choses graves. Cette fois-ci, marquons une pause. Prenons le risque de penser dans le sens de Hannah Arendt et interrogeons nos archives.
Vous écoutez les voix de deux femmes puissantes dans la marche du monde. Celle de la réalisatrice Anna Guion et celle de la traductrice de son documentaire « Mon voisin, mon tueur » Assunta Mugiraneza. Ensemble, elles ont fondé le centre Iriba pour le patrimoine audiovisuel à Kigali. Après avoir partagé une expérience unique, celle du tournage de 350 heures de films avec les habitants des mêmes collines. C'était au tout début des années 2000 et des gachachas. Des juridictions populaires mises en œuvre pour juger la grande majorité des présumés coupables du génocide des Tutsis au Rwanda.
Je me suis intéressée beaucoup à la parole, parce que la parole est importante au Rwanda, et que cette parole a eu du mal à sortir. Et c'était l'idée des gachachas aussi, hein, c'est de faire sortir cette parole. Maintenant, ce que j'ai récolté, j'en ai fait 4 films et petit à petit on s'est rendu compte en parlant qu'on avait entre les mains quelque chose d'unique et qu'il fallait à tout prix conserver ce que nous avions.
Des années plus tard, elles décident ensemble de mettre à disposition cette archive unique au centre Iriba de Kigali. Un projet présenté par Anna Guion lors du colloque international Les Archives du Silence, initié par Soko Faye et Pierre Bayard de l'Université française Paris 8 en partenariat avec Iriba. La Marche du Monde accompagne et soutient ce travail autour de la mémoire. La Marche du Monde enregistrée à Kigali, au centre Iriba pour le patrimoine multimédia. Donc nous venons à la source, Assunta Mugiraneza, merci de nous accueillir.
Merci de venir à nous, merci.
Et j'ai beaucoup de chance puisque à mes côtés se trouvent deux femmes puissantes, Assunta Mugiraneza et Anna Guion, qui toutes les deux ont le sourire aux lèvres parce qu'elles ont également beaucoup d'humour. Bonjour Anne.
Bonjour.
Je dis de femmes puissantes parce que je trouve que vos parcours sont exemplaires, sont engagés et rejoignent en fait cette préoccupation que nous avons tous, à savoir que faire de notre passé, comment le documenter, où trouver les archives, ces fameuses archives du silence, puisque c'est le titre que vous avez choisi à ce colloque qui fera date, un colloque qui se déroule à Kigali en décembre 2016, sur lequel nous revenons peut-être tout de suite à Assunta Mugiraneza. J'aimerais que vous nous disiez ce que sont ces archives du silence. Pourquoi cette terminologie ?
Le choix du titre n'a pas été évident. Autant archives du silence était apparu tôt, mais on avait du mal à nous mettre d'accord entre Soko Faye et Pierre Bayard de Paris 8. Moi, personnellement, je me trouve beaucoup sur le dire. Je pensais à la phrase qui revient régulièrement, et c'est une phrase qui était sur toutes les collines au Rwanda pendant les gachachas, où on dit « ça s'est passé en plein jour, tout le monde a vu ça ». Et donc, le terme « archive du silence » n'a pas eu de facilité à s'imposer dans ma tête. Mais finalement, moi, ce qui m'a le plus ramené au silence, c'est le silence qu'apporte le malaise que nous avons à regarder cette histoire. c'est aussi le silence qui existe quand on essaye d'aller dans la perspective historique. Parce que le malaise que crée l'engendrement et l'exécution de meurtres de masse est quelque chose qui fait que même quand les archives, même quand les traces restent et parlent d'elles-mêmes, on préfère les recouvrir, on préfère détourner le regard. C'est le premier élan, comme si on préférait qu'ils restent en silence et que ces traces ne viennent pas perturber les vivants.
Assunta Mugiraneza, vous avez prononcé le terme de trace. Alors en l'occurrence, l'archive filmique peut-elle aussi être une trace du passé? Et je voudrais que l'on précise tout de suite que le travail de Nagyon a généré des heures et des heures de tournage. C'est ce qu'on appelle des rushs, c'est-à-dire des images à partir desquelles on fait un montage. Et c'est ce qui donne un film. Anne, très précisément, combien d'heures de rushs en 10 ans?
Il y a 350 heures de rush, hein, concrètement, qui ont été filmées sur à peu près 10 ans, dans un même endroit, sur une même colline, avec des protagonistes ou des personnages ou des personnes récurrentes. Et moi, je me souviens avoir commencé à me préoccuper de sauvegarder cette archive vers 2006 ou 2007. Assunta arrière me rappelait que c'était plus tôt.
C'était les circonstances dans lesquelles on a commencé à parler de ça. Et je me souviens que ce jour-là, c'était le 7 avril. Et puis à un moment donné, je t'ai dit, mais Anne, qu'est-ce que tu veux faire de tous ces enregistrements que tu as? Pour moi, ce moment-là était fondateur. Parce que moi, ça faisait presque 10 ans que je fréquentais assidûment le mémorial de la Shoah. Chaque fois que j'étais fatiguée de traduire et que j'avais envie de tracer, je me disais non. Ça, c'est peut-être la base de ce qu'a été le mémorial à l'époque, en 1943, quand on a commencé à ramasser les premiers documents. Et il est vrai que c'est surtout en 2007 qu'on a commencé. Enfin, toi, tu avais déjà une idée plus objective, plus concrétisable que moi, parce que peut-être moi, je rêvais aussi surtout de documents écrits.
Donc ça veut dire que ces 350 heures filmées par Nagyon, dont les mots des protagonistes sont traduits par vous, Assunta Mugiraneza, ces 350 heures constituent une archive unique, il n'y a pas d'autres archives sur les gachachas, donc sur cette justice sur l'herbe, c'est comme ça qu'on le traduisait nous souvent en France. Il n'y a pas d'autres équivalents, c'est une archive unique.
Absolument. Il y avait très peu de choses qui avaient été filmées, d'abord parce que les journalistes qui venaient ou les cinéastes qui venaient n'avaient plus d'autorisation de filmer les gachachas, c'était fini. Mais je veux dire, on était tellement devenus, on faisait tellement partie de cette colline que quand les responsables des gachachas arrivaient, ils n'osaient même pas nous demander quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire si ça n'avait pas été sur la durée. Voilà, et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ce travail, toutes ces images qui ne vont pas atterrir dans les films, ont une valeur inestimable, quoi. Il faut les conserver, il faut les placer quelque part. Et donc ça a pris... Oh oui, au moins 4 ou 5 ans.
Quand on parle d'archives ici au Rwanda, de quoi s'agit-il? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un grand bâtiment qui s'appellerait les archives nationales où on pourrait aller et on pourrait trouver, rassembler toutes les archives du Rwanda.
Quand on prononce le mot archive, on a convoqué une longue histoire douloureuse. À savoir que ces mots, peut-être, qui n'existent pas tant que ça dans nos discours, c'est récent, et quand on le prononce, on n'est pas très sûr de ce qu'on met derrière. Il faut dire que tout ce qui a trait au passé, au Rwanda, est une zone délicate. Le génocide est un long processus d'engendrement qui saccage tout ce qui fait la société. Effectivement, les 4 années de guerre qui a eu entre le FPR et le pouvoir de l'époque de Habyarimana n'a pas épargné les écoles, n'a pas épargné les documents qui existaient. Ça, il faut qu'on se le dise. Et puis il y a eu le fait qu'au lendemain du génocide, même ceux qui auraient pu être sauvés ne le pouvaient parce qu'il y avait des urgences beaucoup plus visibles. Quand on a à choisir entre des orphelins humains et des orphelins documents, le choix est vite fait. Mais je crois aussi que c'est tellement difficile de s'occuper des archives. Les archives, ou bien les documents qui pourraient constituer les archives, non seulement nous renvoient à un passé qu'on voudrait tous laisser un peu de côté, pas peut-être le détruire, mais ne pas s'y retrouver tout de suite. Mais c'est un travail qui peut prendre parfois des allures d'ingratitude, c'est dans la mesure où s'investir dans les archives, c'est accepter d'aller à la recherche sans savoir ce qu'on va trouver, c'est accepter de mobiliser du temps, des moyens humains, des moyens matériels, et peut-être ne jamais parvenir à ce qu'on recherche. Autre chose, c'est qu'une archive qui est aujourd'hui importante, on peut être sûr qu'il y a 50 ans, elle n'était pas si importante que cela. Donc cette problématique archivistique est là dans son aspect technologique, dans son aspect méthodologique, dans son aspect économique. Et le fait qu'on ne puisse pas démontrer tout de suite que voilà, on a investi 100 000 euros et derrière on a autant de bénéficiaires, ça nous complique encore la tâche. Aujourd'hui, pour enregistrer les mémoires vivantes qu'il y a au Rwanda, il faut vraiment avoir une petite armée de personnes bien armées méthodologiquement mais aussi matériellement et derrière assurer le traitement. Les archives Gacaca, c'est un sujet qui devrait être mis au cœur de la communauté parce que c'est quelque chose qui nous regarde. Ce n'est pas encore ça, mais je sais qu'on essaye de les sauvegarder. J'aimerais m'assurer qu'on est conscient des absences qu'il y a entre les différents lieux et que peut-être le fait de pouvoir mener des enregistrements, des enquêtes pour compléter ces documents pourrait s'avérer utile. Il y a aussi les archives du TPIR. Il y a les archives de notre radio nationale. Je connais leur état actuel et je ne sais même pas si on n'aura jamais l'occasion de parler d'archives. C'est des documents plutôt entreposés quelque part.
Alors la Rwandaise vient de parler, elle ne filme pas. Je vais passer la parole à la franco-américaine qui elle filme, c'est-à-dire Anne Aguillon. Parce que je voudrais, Anne, vous êtes cinéaste, vous parlez toutes les deux de rush, d'archives, de 350 heures. Il faut qu'on explique de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on voit sur ces images précisément.
J'ai fait 4 films au Rwanda, au départ je suis venue pour en faire un. Je pensais que 2 ans, 3 ans, ce serait fait.
Tout petit flashback. Oui. La première fois, pourquoi, pour quelle raison, vous venez au Rwanda? Qu'est-ce qui vous a
Alors,
pris?
Alors, j'entends parler des Gacaca en septembre 1999. J'étais aux États-Unis et je rencontre quelques Rwandais. Qui sont des représentants de la justice, entre autres, et qui me parlent des Gacaca.
Ils vous expliquent en gros ce que c'est, qu'est-ce que c'est?
Alors, ils me disent que ça va être des tribunaux, que c'est une tradition rwandaise de mettre les gens ensemble. Ça remonte loin, hein, il faut que j'aille pêcher très très loin dans ma mémoire. Qu'il n'y ait pas on bannit le coupable, on ne le tue pas. Et toute la communauté se retrouve pour gérer le problème. J'hallucine, hein, parce que je me dis, c'est quoi ce truc ? Et puis j'ai passé 6 mois à me renseigner, à essayer de comprendre ce que c'était que ces Gacaca. Et puis j'ai lu, et puis 6 mois plus tard, je suis arrivée à Kigali le 1er avril 2000. Et je me suis retrouvée avec un procureur de l'époque qui s'appelait Jean-Marie Mbarushimana, qui faisait les 2 premiers pilotes de ce qu'on a appelé les présentations de prisonniers à la population. Mais avant ça, j'avais filmé dans une prison, j'avais filmé à Rilima, au pénitencier. Il y avait des Gacaca autogérés par les prisonniers. Et donc, j'avais filmé des trucs avec les prisonniers en rose à l'époque. Hein, ils étaient tous en rose. Et je ne sais plus exactement les dates, mais je pense que c'était avril 2001. Jean-Marie m'a accompagnée, m'a emmenée
au cachot de Nangwe que j'ai choisi parce qu'il était le plus loin de la route et que je voulais être loin des journalistes, loin des officiels. Je me suis adressée aux prisonniers, j'ai demandé qui voulait travailler avec moi en expliquant très clairement que je n'étais absolument pas là pour me substituer à la justice et que de travailler avec moi n'allait rien changer à leur situation de détenue. Et au bout d'une petite semaine, j'avais choisi 8 prisonniers et une douzaine ou une quinzaine de rescapés, de familles de prisonniers qui venaient tous de la même de trois collines. Et on a filmé pendant 50 jours. En allant voir les gens tous les jours, on a filmé les interrogatoires. Qui était juste en dehors du cachot. On a eu des entretiens avec les prisonniers en tête-à-tête. On a eu des entretiens avec les gens sur la colline en tête-à-tête. Et la présentation de prisonniers à la population qu'on attendait a eu lieu le dernier jour de tournage. Et ce jour-là, il y avait une tension extrême. Tension extrême dans la communauté déjà, parce que c'était un moment extrêmement important pour eux. Ils étaient dans un état de concentration extraordinaire. Ils nous marchaient dessus. Ils ne nous voyaient plus. Tellement c'était important pour eux.
Décrivez-nous la scène.
On est arrivé au cachot. Et au cachot, il y a peut-être une cinquantaine de prisonniers qui ont été mis dans des camions. On a filmé sur le camion. Une des personnes qui filmait, qui était avec les prisonniers dans le camion. Il y avait une autre personne qui filmait, qui était à l'arrivée. Pendant que le camion avançait, toute la communauté se regroupait dans un endroit, dans une clairière, sous les arbres. C'était des gens des Trois Collines qui venaient. Et je pense qu'il devait y avoir, je dirais, entre 500 et 800 personnes.
Ici Radio Rwanda, les nouvelles en Kinyarwanda.
Katongere tubasuhuze kuri uyu wa kabiri Gicurasi mu mwaka 2021 mu karere ka Ntongwe intara ya Gitarama hatangijwe ku mugaragaro igeragezwa ry'imanza z'inkiko gacaca aho abafungwa bakurikiranyweho icyaha cya genocide bitabyiwe.
Oh, bonjour, nous sommes en mai 2001 à Ntongwe, province de Gitarama. Aujourd'hui a lieu un essai de gacaca pour présenter des prisonniers accusés de génocide à la population. Réunion présidée par Jean-Marie Mbarushimana, procureur des provinces de Gitarama et Butare.
Je me souviens du son, on entendait les pas des gens, les chuchotements, c'était très très impressionnant. Et les regards des gens étaient extraordinaires. Ils avaient les yeux quasiment exorbités, ils étaient concentrés, mais comme c'était le jour le plus important de leur vie, quoi. C'était très, très impressionnant. Et j'en ai des frissons rien que de le raconter. Le procureur et les officiers du ministère public, enfin, au début, ils avaient des bancs sous les arbres et ils étaient assis, ils se levaient dignement et tout ça. Et puis petit à petit, la foule les a complètement englobés. Ils pouvaient à peine bouger, ils se sont retrouvés au centre d'une masse de gens inimaginables qui se rapprochaient, qui se resserraient. Les prisonniers attendaient debout, un peu à l'écart. Et donc, Jean-Marie Mbarushimana et quelques-uns de ses collègues, mais toujours un à la fois. Et donc, ils appelaient un prisonnier, ils levaient la main comme si c'était un match de boxe, un petit peu le vainqueur d'un match de boxe. Ils prononçaient le nom de la personne et ils disaient « C'est un tel de tel endroit qui a tel âge, est-ce que vous le connaissez ?» Si personne n'avait d'objection, la personne était relâchée le soir même ou le lendemain matin. Il y avait des objections, il y a des gens qui sont repartis en prison et puis il y en a qui ont été libérés. Mais les trois femmes les plus importantes de ce jour-là, c'est Félicité, Euphrasie et Faïssa, qui sont toutes trois des femmes Hutus dont les maris Tutsis avaient été tués. Pourquoi est-ce qu'elles étaient importantes? Parce qu'elles avaient tout vu. Comme elles étaient des femmes Hutus, elles n'avaient pas eu besoin de se cacher, elles n'avaient pas été tuées. Elles allaient être menacées alors que le FPR est arrivé à arrêter le génocide sur la colline. Donc elles avaient vu leurs enfants se faire tuer, elles avaient vu leur mari se faire tuer. Il y a eu un échange extraordinaire qui est dans le premier film entre Faïssa le procureur et Rouham Fizi autour d'une vache qui devient presque plus importante que son mari qui a été tué.
Merci Anne. Avant d'aller plus loin, je vous propose peut-être qu'on écoute cet extrait dont vous venez de nous parler.
D'accord.
Wamfizi de Rubona. Où sont ceux de Rubona? Ceux de Rubona, levez la main. 1, 2, 3, 4, 5. Les gens de Rubona. 6, 7, 8. Que Wamfizi vienne ici.
Je l'accuse d'avoir tué mon mari.
Comment s'appelle-t-il?
Il s'appelait Modeste Kalissa.
Cette femme l'accuse d'avoir tué son mari.
Je parle de mon mari. Il a participé aux attaques et m'a aussi pris des vaches.
Combien?
Il y avait deux vaches.
Il les a prises?
Tout le monde le sait.
C'est vrai? Une vache ne disparaît pas comme ça.
Elle ment. J'en ai récupéré une qui s'était égarée, je l'ai payée.
Vraiment?
Je l'ai payée.
En plus, il l'a payée, c'est bien.
Oui, la mère a été payée.
Et ce mari?
Je ne le connais pas.
Toi aussi, tu y étais?
Non, pendant l'attaque, ce monsieur... En fait, dans la famille du côté de mon beau-père, quand ce monsieur a pris les vaches, il est passé avec elles à côté de chez nous. Une vache et son taurillon. La façon dont ils venaient nous déposséder de nos enfants pour les tuer. Dans la famille de mon beau-père, ils ont tué 18 personnes.
Et pourquoi pas toi?
À ce moment-là, ils ne tuaient pas encore les femmes. Une fois nos garçons massacrés, ils sont revenus et ont commencé à tuer les femmes. C'était le mercredi 26.
Y a-t-il eu des viols?
Pardon?
Vous ont-ils violé?
Non, mais un garçon en prison avait un bout de bois gros comme ça, avec lequel il devait violer les femmes des Tutsis.
Extrait du premier film d'Anna Guion, Gachacha, Revivre ensemble au Rwanda, point d'interrogation. Film dont vous avez assumé les traductions, Assumpta Mugiraneza. Un extrait d'un film qui est donc une partie de ce que Anna Guion a filmé, puisque notre question aujourd'hui, c'est bien les archives et les archives audiovisuelles générées par ces 10 années de tournage par Anna Guion, 10 années de tournage et 4 films. Assumpta Mugiraneza, puisque l'on s'interroge sur ce que sont les archives et à quoi servent les archives, j'aimerais que vous nous disiez pourquoi c'est important. Cette conservation de ces 10 ans de travail cinématographique que Anna Guion a effectué ici au Rwanda et auquel vous avez participé.
Les images ramenées par Anna Guion ont été un passage important dans mon cheminement, dans mon interrogation sur le travail d'histoire. Donc pendant longtemps, j'avais un gros doute sur la justice et j'avais eu l'occasion d'assister à des séances organisées au Rwanda avant les Gachacha, où on voyait à quel point la justice, enfin en tout cas ce qui se mettait en place, c'était une justice qui s'occupait d'une partie des protagonistes et que vraiment les gens blessés ne pouvaient pas y avoir accès. Les procureurs qui étaient en place, c'était des gens que je connaissais avant génocide. Je n'y croyais pas beaucoup. Et si j'ai accepté d'accueillir l'archive de Anne, enfin les rushs de Anne, au départ c'était un peu de politesse. Je n'étais pas convaincue. Quand je m'asseyais, que je regardais ça, j'étouffais un peu avec les gens dont elle parle. J'avais peur. Les gens qui ont vécu ça, c'est ce qu'on a pu constater quand on retourne sur les collines, les gens retrouvent un peu ce qu'ils ont vécu et disent « Oh, mon Dieu, finalement, c'est ça qu'on a fait, les adultes. On a tellement fait de choses qu'on a oublié d'avoir fait ça. » Et pour les jeunes, je crois que c'est important qu'ils sachent à quel point les Gachacha n'étaient pas évidentes. Aujourd'hui, on fait comme si les Gachacha, c'est quelque chose qui s'est imposé presque naturellement, qu'on maîtrisait. Non, Au Rwanda, au lendemain du génocide, personne ne savait quoi faire. Il y a des gens qui disaient, si on se met à juger, on n'en sortira pas. Il y a tellement de gens à juger et puis on a besoin de réconcilier le peuple rwandais. Et d'autres qui disaient non. Le fait de n'avoir jamais jugé un meurtre commis contre un Tutsi a participé à implanter la culture de l'impunité qui a aussi son rôle dans le génocide, il faut juger. Et c'est en débattant, dans des discussions qui n'étaient pas si abouties que ça, qu'on est allé chercher, réveiller cette pratique des gachachas. Et les gens hésitaient, rien n'était si sûr. Les textes sur les gachachas ont dû changer plusieurs fois. Le fait que cette archive existe pour nous, c'est une bénédiction, vraiment. Et je crois aussi que quand on va aux archives, on y va avec un autre esprit. Celui qui n'a pas le temps, celui qui ne veut pas être patient, ne peut pas aller dans un centre d'archives. Mais celui qui vient, il sait qu'il vient chercher, il accepte de tâtonner, il accepte de douter. C'est essentiel, c'est fondamental, cette archive.
Alors j'aimerais que l'on revienne sur la fabrication de cette archive, des gachachas sous votre œil, à Naguion, puisque vous avez tourné ces 350 heures pour nourrir vos 4 films autour de la question de la réconciliation après le génocide des Tutsis, ici au Rwanda. Ce sont des images, mais aussi des paroles, énoncées dans une langue qui n'est pas la vôtre.
J'étais terrifiée d'être manipulée dans les traductions, comme j'y comprenais rien, c'était très compliqué. Et donc j'ai choisi de travailler avec 8 traducteurs différents et de tout faire traduire 2 fois. J'y repense parce que j'avais, à ce moment-là, je travaillais en coproduction avec une boîte de production en France. Ils m'ont regardé comme si j'étais folle. J'ai dit, et j'ai insisté, et je veux dire, c'était incontournable. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Assunta. Elle l'a évoqué tout à l'heure. Au début, elle résistait et elle pensait qu'elle allait me lâcher en route. Et puis finalement, on ne s'est pas lâché. Et Assunta s'est très vite imposée comme la traductrice qui avait du sens dans cette histoire. Et en fait, c'est Assunta qui a traduit pratiquement toutes les images. Donc elle connaît ce fonds d'archives mieux que personne.
À Naguion, vous nous avez expliqué de quelle façon vous êtes engagée aux côtés des Rwandais, j'allais dire, pour créer cette archive à partir de laquelle vous avez évidemment fait des films, ou plutôt vous avez fait des films et grâce à ces tournages vous avez créé une archive. Pourquoi vous avez continué ?
Alors, je finis le premier film en 2002, fin 2002, je crois, quelque chose comme ça, et je viens le montrer à Kigali très rapidement. Je pense qu'à la projection, il y a eu peut-être 200 personnes, beaucoup de dirigeants, beaucoup de militaires de l'époque. Les gens à Kigali à l'époque, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, peut-être même encore plus, ne sortaient pas de Kigali. L'impact a été énorme sur la colline aussi, parce que, je veux dire, ils ont compris ce que j'avais fait. Et on l'a montré aussi au cachot. C'était pas dans le cachot même, mais juste à côté du cachot, dans la salle des interrogatoires, parce que je voulais que les prisonniers voient aussi ce qu'on avait fait.
Après avoir étudié les problèmes judiciaires des prisonniers ayant avoué leurs crimes de génocide et demandé pardon aux victimes et aux Rwandais, le président demande aux instances compétentes d'examiner dans le mois les dossiers de ces détenus. Ceux dont les aveux sont conformes à la loi Gachacha et qui ont purgé le maximum de la peine prévue par cette loi seront aussitôt mis en liberté provisoire. Ils comparaîtront en liberté. Fait à Kigali le 1er janvier 2003.
Et donc, moins d'un mois plus tard, après la projection, il y a eu l'annonce des libérations massives. Je crois que c'était en janvier 2003. Kagame a annoncé qu'il allait libérer 40 000 prisonniers. Finalement, je crois qu'il n'y en a que 20 000 qui ont été libérés, mais enfin, c'était quand même énorme.
Et en termes de personnages, il y a eu aussi un lien.
Alors, Juan Fizi, qui était donc le prisonnier dont on a parlé avant, qui était impliqué dans cet échange avec Faïsa et autour de, du mari mort et des vaches, Juan Fizi a été libéré. Et donc, on a filmé sa libération. Il est allé dans ce qu'on appelait à l'époque des camps de solidarité. Je ne me souviens plus le nom en Kinyarwanda. Ingando.
Ingando, bien sûr.
Ingando. Donc, il a été transféré dans un Ingando pendant 3 mois. Et puis, on a filmé son passage dans l'Ingando et on a filmé le retour sur la colline. Et le deuxième film est né. Il a été fait dans complètement différemment du premier. Le premier, c'était 50 jours de tournage d'affilée. Et le deuxième film, on l'a filmé sur 1 an, 4 tournages. Et en fait, c'était un moment très étonnant parce que, au début, les gens rejetaient les gachachas en bloc. Quand je dis les gens, je veux dire les rescapés rejetaient les gachachas en bloc. Les prisonniers, ils étaient pour. Ils avaient tout à gagner. On était, au moment où je filme le deuxième film, dans un vide. C'est-à-dire que petit à petit, les gens avaient commencé à se dire peut-être que les gachachas, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça parce qu'on a besoin de justice et peut-être que c'est pas une justice si pourrie que ça. Et donc, bref. Pendant que je filmais le deuxième film, les gens étaient très... Ils se sentaient perdus, en fait. Ils étaient dans un moment où ils avaient commencé à accepter l'idée des gachachas et tout à coup, les gachachas ne venaient pas. Donc, ça a duré comme ça parce qu'il y a eu beaucoup de délais, justement, pour adapter la loi. Et donc, on se retrouvait, les gens se retrouvaient au café. On a filmé plusieurs séquences, plusieurs scènes au café dans cette année et ils parlaient. Et on a réussi à filmer ça. Et à un moment, je me suis rendu compte, autant dans le premier film, on était très en retrait et très un peu fondu dans le paysage, autant dans le deuxième, la caméra a pris ses responsabilités. Et j'ai assumé le rôle de médiateur ou de médiatrice que j'avais et que la caméra avait dans cette communauté, sur cette colline. Un des personnages, Jean-Paul, qui dit « Au lieu de nous parler tous séparément, vous devriez nous mettre ensemble. » Nous mettre ensemble avec nos tueurs. Hein. Et on a décidé qu'on ferait un dernier tournage. Et le dernier tournage, c'était on allait mettre tout le monde ensemble. Et c'est, voilà, c'est moi qui j'ai créé une réunion de plus au café. En le disant, hein, c'est explicite dans le film.
Quelqu'un qui t'a fait du mal revient et tu dois te taire. On nous a dit qu'il viendrait vers nous en paix, tranquillement, mais aucun d'eux n'est encore venu chez moi. Juste à côté de chez nous vit le meurtrier de mon frère. Pourquoi n'est-il pas venu me demander pardon ? À votre prochaine visite, amenez-les donc avec vous. Devrez-vous les forcer à venir nous demander pardon? On pourra discuter et dire ce qu'on pense. Même si ce n'est pas en privé, qu'on débatte au moins en votre présence. Qu'on discute avec nos bourreaux.
Assumpta Mugiraneza, donc vous êtes devenue la traductrice, l'amie, la partenaire et aujourd'hui un tandem incroyable, Assumpta Mugiraneza et Anna Guion, ici au Centre Eriba pour le patrimoine multimédia. J'aimerais que vous réagissiez à cette scène étonnante que vous avez traduite. Et d'abord, comment vous l'avez vécue lorsque vous l'avez traduite, lorsqu'une victime dit « vous devriez nous réunir tous ensemble ».
Parmi les gens qu'elle filme, il y a un jeune Jean Pon qui ne parle pas beaucoup. Il veut bien aider Anne à les aider à entrer en contact avec leur tueur. Il fait une proposition, il dit « mais tu sais... peut-être que toi, tu devrais plutôt leur demander de nous rencontrer. » Même si ce n'était pas une véritable réunion, mais qu'on se rencontre et qu'on se parle, et toi-même, tu verrais ce qu'ils pensent. Et ce n'est pas tombé visiblement dans l'oreille d'une sourde.
Quand on est revenu pour faire cette réunion, d'abord j'avais prévu 10 ou 15 jours pour un jour de tournage. Cette façon de travailler a été symptomatique tout du long. J'ai passé des journées entières à voir ces gens et à pas sortir de caméra. Et on était une équipe entière, on était 5 sur la colline. Donc on peut se dire c'est une perte de temps, tu aurais pu laisser les autres derrière. Non, on était tous là. On est allé voir les uns et les autres et on leur a dit si on convoquait cette réunion, est-ce que tu viendrais ? On est allé voir tout le monde. Et ils ont dit oui. Et puis après, il a fallu réfléchir à un endroit. On a finalement choisi un café, enfin un cabaret, sur lequel tout le monde était d'accord, qui était le cabaret du fils de Roi Mfizi, donc du fils du tueur présumé. Est venu. Donc Jean-Paul, en l'occurrence, n'est pas venu. Celui qui avait demandé la réunion. Mais sa mère est venue, Félicité est venue, Faïsa est venue, Roi Mfizi est venu.
Assumpta Mugiraneza, donc vous traduisez cette scène. C'est une scène très particulière puisque Anne Aguillon l'a bien expliqué. Anne organise cette rencontre. Certes, elle répond à une demande, vous l'avez bien expliqué aussi. Mais là, ce qui se passe devant vos yeux, c'est tout à fait nouveau. Comment vous abordez cette traduction et quels souvenirs vous gardez de ce travail de traduction à ce moment-là, c'est-à-dire sur les mots qui sont exprimés et sur les silences?
Quand elle me le raconte, je dis, mais c'est pas possible, elle est pas... Anne n'est pas sérieuse, comment elle a osé faire ça? Mais en même temps, je me souviens du malaise ressenti devant le silence, un silence pesant. Je crois qu'il faisait chaud, on les voit transpirer. Quand je prends le temps d'écouter ce silence, j'y retrouve aussi les manières de faire, parce que c'est pas un film seulement, c'est aussi une étude presque anthropologique ou sociologique. Guo Mfizi, qui est un homme et qui se sait plutôt coupable, va tenter d'installer une discussion qui est complètement irrationnelle. Un Rwandais maîtrise une chose et c'est son langage. Il commence à parler des haricots qu'il faudrait planter. Mais comme il a peur du fait que la dame ne va pas accepter de répondre, il finit par proposer des réponses. Vraiment, on le voit qui essaye de créer un premier dialogue. J'ai regardé plusieurs fois les images sans le son. Parce que la manière de se saluer, la façon de s'asseoir racontait tant. Parce qu'un Rwandais ne peut pas passer sans saluer celui qu'il connaît et qui est proche. Je me sentais basculer vers cette capacité d'une caméra à saisir des choses qu'on ne pourrait peut-être pas ne pas entendre si on était là, live. Et Anne exige que tout souffle. On puisse écouter, essayer de traduire ce qu'il y a derrière. Et quand on doit dire son désaccord en Kinyarwanda, on ne le dit pas très fort, surtout quand on est une femme. Alors il fallait chercher les mots qui se croisaient. Parce qu'à un moment donné, les trois femmes, je crois, pour pouvoir dire leur ressentiment contre le Guo Mfizi, faisaient comme si elles se parlaient entre elles, mais au fait, c'était des flèches dirigées vers le Guo Mfizi. Il ne faut pas trop tout dire devant ces outils, ces machines de blanc. Dis-le.
Comment ces trois femmes rescapées du génocide utilisent-elles la caméra pour parler à leur tueur, et en l'occurrence à Guo Mfizi?
C'est une scène entre Frazi et Belanzi. Là. Il y a une amie qui vient un jour la voir, qui est plus âgée qu'elle, et qui vient pour lui acheter du tabac. Et elles s'asseyent toutes les deux. Il y a un petit garçon dans le coin dont on voit les yeux de temps en temps. C'est une très très belle image en plus. Elles sont assises, donc hein, il fait sombre dans la maison, c'est éclairé par le côté. Et elles utilisent la caméra pour se parler entre elles et pour se parler avec elles-mêmes. Hein, et elles disent oui, mais ils n'ont qu'à venir nous balayer parce que de toute façon on est déjà mortes. Ils n'ont qu'à venir finir le travail et ces blancs nous posent des questions bizarres. Oui, c'est un moment de négociation entre elles deux et entre elles-mêmes, chacune de son côté.
Donc tout ça, il fallait le traduire. Et je me suis dit, c'est pas possible. Soit elle est sorcière, soit elle est magicienne. Wakoga mwirira umuha
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI, enregistrée à Kigali, où le centre Iriba accueille les 350 heures de Rush, des films de Anna Guion, réalisatrice de la trilogie des Gachacha et du film documentaire plusieurs fois primé Mon voisin, mon tueur, un film sélectionné à Cannes en 2009. Et c'est ici même, au Rwanda, que nous revenons avec vous, Anna Guion et Assunta Mugiraneza. Sur cette archive filmique et sur ce qu'elle raconte, Assunta, vous êtes la traductrice des films d'Anna Guion et directrice du centre Iriba. Est-ce que pour vous, la petite histoire d'une colline peut raconter la grande histoire ?
C'est l'histoire justement des Gachacha sur une colline. Et je crois que ce qui fait d'abord la différence, c'est la façon de travailler de Anna Guion. Qui crée la richesse de ces films d'abord, et après bien sûr des archives maintenant qui sont sorties de son travail. Elle travaille vraiment dans l'intégralité, dans une certaine radicalité, rien ne lui échappe. J'aime dire, elle a filmé même des silences, mais des silences qui disent tellement beaucoup. Et elle s'arrêtait sur des gestes qui rappelaient qu'on est dans la vie, on n'est pas dans une vidéo. Je me souviens d'un jour où elle me dit, mais qu'est-ce que ça a comme sens là ? Parce qu'il y a une dame qui lui parle et puis qui se coupe, c'était Félicité, et qui se tape comme ça. Quand elle se tape des deux mains ouvertes, elle tapote un peu les cuisses de chaque côté. Et après, elle fait avec un geste de la main, genre, laisse tomber, ça dépasse l'entendement. Et chez nous, quand une mère fait comme ça, ça veut dire qu'il n'y a plus moyen de parler. Anna Guion, elle nous ennuie en nous posant toutes ces questions, mais en même temps, je crois qu'elle a bénéficié d'une certaine admiration qui a fini par se muer en affection. Comme si on voulait tous la soutenir. Je parle de moi et des gens sur la colline, l'équipe de travail ici au Rwanda, mais les protagonistes du film aussi.
Mais alors justement, comment les Rwandais ont vécu ces films lorsque vous les avez montrés à Anna Guion ?
Dès le départ, j'avais commencé à montrer mes films au Rwanda. Dès le premier film, donc on l'avait montré sur la colline, j'avais travaillé avec RCN, Justice et Démocratie, pour organiser des projections pour tous les gens qui étaient impliqués dans le domaine de la justice et de la reconstruction. Ils trouvaient que c'était trop tôt pour montrer le film largement sur la colline. Ils disaient que c'était un peu trop une Ferrari et que c'était un peu trop tôt. Par contre, avec le deuxième film au Rwanda, on dit « La famille qui ne parle pas meurt », on a à nouveau œuvré avec RCN et on a montré le film. Donc le deuxième film, c'était sur le retour de Juan Fizist sur la colline et l'impact de son retour sur la communauté. Et donc on a montré le deuxième film à environ, je crois, 35 000 ou 40 000 prisonniers. Avec des discussions sur les problèmes de coexistence après. Et ça, c'était avec RCN et Jean-Marie Mbarushimana, le procureur aussi. Il y a eu de voilà. Et puis et avec le dernier, on a avec Assunta, on a organisé d'abord des pilotes. On a fait des choses avec la commission d'unité et réconciliation. On avait des projets extrêmement ambitieux de montrer les films très largement sur la colline, qui ont été faits en partie.
Assunta.
Dans le film Mon voisin, mon tueur, celui que j'ai pu recevoir au Rwanda, on a eu l'occasion effectivement de le montrer à tous les échelons du pays. Je voudrais rappeler, les Rwandais sont saturés de ces moments vécus mais des images et des mots et des programmes et des blancs qui viennent raconter des pasteurs et des prêtres. C'est rare qu'on accepte de rentrer dans les films, quoi. On regarde les images, mais on ne dialogue pas avec ce qui est mis en scène. Ce travail nous rappelle l'humilité qu'il faut à chacun quand on veut regarder ces moments de négociation de la vie post-génocide. Ce génocide et son engendrement a tellement brisé les repères que ce n'est pas obligatoirement parce qu'on est ministre chargé de la reconstruction ou qu'on a dépassé ça. C'est facile de dire... Moi, je ne supporte pas l'idée de dire « il y avait un mauvais pouvoir, le peuple est devenu mauvais. Et maintenant, il y a un bon pouvoir, le peuple va devenir bon. » Ou bien expliquer « ah, vous savez, le génocide, c'est parce que les Hutus haïssaient les Tutsis. » Ça ne suffit pas. Et le film d'Anne nous oblige à dépasser justement cette dualité. Gacaca est un espace de parole extraordinaire. Un espace de parole qui a permis de contenir l'endroit où on venait déverser toutes ces choses avec lesquelles on ne peut pas vivre individuellement et socialement. Et on se disait, mais les gachachas ferment bientôt. Qu'est-ce qui a été mis en place? Comment a-t-on préparé la suite? On a amené le film d'Anne Akyon. Jusqu'aujourd'hui, on a vu comment on peut l'employer. C'est un film qui parle à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un film qui parle le Rwanda. Voilà, c'est le Rwanda qui s'exprime à travers ce film.
Merci à toutes les deux. Rwanda, les archives de la réconciliation. C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, tourné à Kigali avec Assumpta Mugiraneza et Anne Akyon, cofondatrice du centre Eriba, où sont archivées les 350 heures de rush des tournages de la trilogie des Gachacha, réalisée par Anne et traduite par Assumpta. Plus d'infos à découvrir sur notre page RFI.fr et notre page Facebook. Il me reste à vous inviter à nous écrire, à réagir, à podcaster. Cette émission signée Valérie Nivelon et mise en onde par Hugo Violas avec la complicité de Juliette Flamand, c'est la vôtre. Mm-hmm.